qui provoqua ce raz-de-marée, cette vague qui, comme un débordement, emportait tout sur son passage, les voitures, les bateaux, les entrepôts, les maisons. Les trains étaient renversés. Ce sont ces images effroyables et la dignité du peuple japonais qu'elles ont révélées également dans cette tourmente. Oui, ces côtes ravagées par ce tsunami qui ont fortement impacté toute notre terre. L'immeuble le plus élevé, ce qui m'a frappé, qui pouvait servir de refuge, était lui-même bientôt précipité dans les flots. Alors pardon d'évoquer cette page terrible de l'histoire du monde, mais il me semble important que nous retrouvions la symbolique de l'eau pour les Hébreux. De manière un peu folklorique, on voyait sur les cartes marines d'antan quelques monstres relativement sympathiques dans les océans, mais c'était des monstres beaucoup plus terribles pour les Hébreux. C'était Léviathan. C'était une force qu'ils ne maîtrisaient pas, ce n'étaient pas des marins. Et donc l'eau, c'était la mort. C'était le drame. Et il me semble important de voir que pour eux, l'eau, c'est aussi le symbole de tout ce qui, dans nos vies, peut nous détruire. Nos difficultés relationnelles, peut-être. Notre difficulté au travail, le chômage. Peut-être que ça peut être aussi le mauvais chemin que prend un de nos enfants. La maladie d'un proche. Tout cela peut nous broyer. Et je ne parle même pas des épreuves collectives que traversent bien des peuples, la famine, la guerre, l'exil, toutes choses que peut-être un jour nous serons appelés à connaître, à traverser. Et plus proche de nous, ce qui peut vraiment entraîner dans son flot néfaste notre espérance, la ruine de notre civilisation chrétienne, emportée bribe après bribe, des livres sortent sur ce sujet, par cette vague profonde, tenace, implacable. Et si nous n'y prenons pas garde, nous aussi nous sombrerons et nous laisserons de côté notre espérance, qui est notre unique motif de nous tenir debout. Mais aujourd'hui, nous entendons une parole. Les pères le disent, les pères de l'Église, en s'adressant au Christ, « Tu nous as ouvert un passage à travers les eaux. » Car le Christ vient nous protéger des eaux dévastatrices. Il entre dans les eaux et elles s'écartent devant lui. Le Christ, nouveau Moïse, obtient que de part et d'autre de lui, les eaux s'écartent et forment comme une muraille. Dans cet épisode du baptême est renouvelé, bien sûr, l'épisode de l'Exode. Voilà, alors nous ne pouvons prétendre traverser la vie sans marcher derrière le Christ. Mais ça concrètement, pas simplement de bouche, si le Christ n'est pas celui qui, dans nos vies, nous précède dans toutes nos difficultés, dans notre quotidien, eh bien nous sombrerons. Mais si nous sommes derrière lui, les eaux de toutes ces difficultés abandonneront leur pouvoir destructeur. Elles ne nous emporteront pas. Alors voyons comment nous réagissons dans le concret du quotidien, à quel point les difficultés sont pour nous source d'angoisse. On le sait bien, pour les jeunes et les adolescents, les difficultés les emportent et ils se laissent aller à la déprime. Ils attendent à leur vie. Eh bien, nous, à quel point sommes-nous de cette résistance? Marchons-nous assez derrière Jésus, comme derrière ce nouveau Moïse? Chers frères et sœurs, nous n'avons pas le choix. Nous ne devons plus faire qu'un avec Jésus. Alors, tous nos écarts du péché, mais même nos fantaisies quand nous voulons en faire qu'à notre tête sans avoir discerné la volonté du Seigneur, sans avoir pris le moment du conseil, eh bien, nous risquons fort de nous soustraire de cette protection et d'être emportés par ces vagues mortifères. Mais j'aimerais faire un pas de plus. Ces flots destructeurs, ces flots hostiles, les pères de l'Église disent aussi « Jésus les baptise ». Je vous cite ce que dit saint Ambroise. « Le Seigneur fut baptisé, non pas pour être purifié, il n'en avait pas besoin, mais pour purifier les eaux, afin que purifiées par la chair du Christ, elles aient le pouvoir de baptiser. » C'est magnifique. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire qu'à partir du moment où le Christ est rentré dans le Jourdain, il a communiqué à toutes les eaux de la terre qui respectent cette composition chimique, il a communiqué à toutes ces eaux de pouvoir être vecteur de la grâce. Et vous savez que le baptême, chers frères et sœurs, est le sacrement qu'on donne le plus facilement. Vous savez peut-être même qu'un non-baptisé peut baptiser à partir du moment où il a l'intention de faire ce que fait l'Église. Que veut dire l'Église avec cela? C'est que le salut est pour tous. Il suffit d'avoir cette eau, cette matière qui désormais a trouvé un nouveau pouvoir en elle, la communication de la grâce. Mais allons plus loin. Les eaux physiques représentent ces eaux symboliques du malheur, comme je l'ai évoqué. Et bien justement, ce sont même ces eaux symboliques du malheur qui sont baptisées. Qu'est-ce que cela veut dire? Toute difficulté peut devenir source de vie. C'est notre foi. Regardons bien dans notre vie. Comment est-ce que nous avons grandi? Est-ce que ce n'est pas souvent à partir de difficultés qui nous ont fait profondément souffrir, une difficulté de relation qui nous a obligés à supplier pour que l'esprit d'amour vienne habiter notre cœur et dépasse le conflit, ou bien un échec qui a porté au cœur, qui a anéanti ou en tout cas amoindri notre amour propre? Toutes ces choses-là font que petit à petit, la vie divine fait son œuvre en nous. La grâce nous façonne. Oui, tout cela est baptisé, toutes ces forces de mort, par la grâce du Christ qui nous précède, peuvent devenir source de vie, moyennant aussi notre patience et notre consentement à marcher derrière le Christ. Une dernière chose, frères et sœurs, que signifie pour le Christ le baptême? Quelle attitude nous laisse-t-il? Saint Luc est le seul qui le dise. Il y en avait plein d'autres qui se faisaient baptiser avec Jésus. Eh bien, Jésus se met dans la file des pécheurs. Il descend comme un parmi bien d'autres. Autrement dit, c'est l'humilité de celui qui descend et de ce fleuve qui descend. Vous savez peut-être que le mot Jourdain, en hébreu, veut dire « ce qui descend ». Voilà. Eh bien, nous avons à nous inscrire dans cette descente du Christ. Il courbe la tête devant Jean-Baptiste, son cousin, lui qui n'est qu'un homme alors que le Christ est Dieu. Voilà C'est ainsi qu'il faut que soit accomplie toute justice. Qu'est-ce que c'est que l'humilité pour Jésus ? Ce n'est pas simplement rester à sa place. C'est prendre la dernière place et y aller. Et la prendre à notre place, justement. Jésus a tellement pris la dernière place que nul ne pourra la lui ôter, disait Charles de Foucault. Eh bien voilà, que faisons-nous maintenant des humiliations dans notre vie ? Je me le dis pour moi. Quand la comparaison ne tourne pas à notre avantage, quand on ne parle pas de nous, quand on ne relève pas ce qui est pour nous quelque chose de valorisant, mais qu'on reste dans l'ombre, quand on se moque gentiment d'un de nos travers qu'on n'aimerait pas voir révélé, quelle attitude ? L'amour-propre meurtri se rebiffe ? Ou bien, après un premier réflexe bien compréhensible, nous disons « Mais merci Seigneur, trop de fois je cherche la gloire, alors quand tu m'avoues un peu d'humiliation, eh ben c'est une bonne nourriture, vraiment. » Voilà, alors n'ayons pas peur de toutes ces petites occasions, accueillons-les comme une opportunité. Le Père Lamy le disait, nous devons être à la dernière place comme un poisson dans l'eau. Quand on vous donne une mauvaise chambre, un mauvais emploi, eh bien, soyez-en contents. Plus nous serons humbles, moins nous aurons à craindre du tsunami du monde, parce que plus nous serons conformes au Christ et derrière lui. Marie fut infiniment humble par grâce de Dieu, si bien que le tsunami du péché ne l'a pas effleuré, ne l'a même pas mouillé. Alors, qu'elle nous enseigne à nous tenir au sec.